Et bonjour à tous et re-bienvenue dans Génération Sport, l'émission sportive de Radio G du 101.5 FM. Déjà, pour commencer, bonne année à tous ceux qui nous écoutent. Et puis, donc aujourd'hui, c'est une émission spéciale Lada Langevin. On présentera nos invités juste après, mais avant ça, déjà, petit big up à Max qui n'est pas avec nous aujourd'hui, hein, il travaille. Rassurez-vous, il n'a pas le Covid, il y a échappé. Mais voilà, il travaille, donc on le reverra dans les semaines prochaines. Cédric est avec nous aujourd'hui. Salut Cédric.
Salut tout le monde, salut Alex. Bon, on pense à Max, hein, qui est au fond de sa cave, en fait,
pour bosser,
à produire les prochaines émissions.
Exactement, hein. C'est pour ça. Cédric, t'as passé de votre bonne fête ?
Bon, écoute, ouais, on a pu se reposer un petit peu, hein. On a pu profiter des grosses ambiances encore une dernière fois, notamment avec les Ducs.
On en reparlera.
Des bonnes fêtes dans l'ensemble, quoi.
Eh bien, cette première émission de l'année 2022 est donc la première du mois de janvier, évidemment. Et donc, c'est une émission en partenariat avec la Dallangevin. Donc, Théo est avec nous aujourd'hui. Salut Théo.
Salut.
La forme ?
La forme, tout va bien. Et puis, bonne année à tout le monde aussi.
Oui, bonne année à toi également. Et puis, notre invité du jour, j'ai envie de dire, c'est toi qui nous l'a ramené, c'est Pauline Frélon.
C'était classe ton intro.
Excuse-moi, mais Pauline Frélon qui est avec nous, donc kayakiste, et qu'on interviewera en deuxième partie d'émission. Salut Pauline.
Salut.
Bonne année à toi aussi, du coup.
Bah oui, bonne année à vous tous.
On va donc enchaîner avec donc le 1-2, vous le connaissez. Il y aura des petites pauses musicales pendant l'émission et évidemment donc l'interview de Pauline Frélon qui arrivera. Et puis surtout, on donnera des nouvelles de la Dallangevin, puisque j'imagine que pour 2022, il y a pas mal de projets. On va donc commencer avec le fameux 1-2.
Qui va être en solo.
Qui va être en fait soit une, soit une 2. Enfin, je pense que je vais être le 1.
Oui.
Peut-être.
Oui.
Ou le 2.
Puis on pourra toujours réagir.
Oui, voilà, évidemment.
En fonction de l'actualité.
Je reviendrai vers toi pour.
Tu vas nous proposer, voilà.
C'est ça, je reviendrai vers toi pour les Ducs. On commence cette chronique par un hommage à un ancien handballeur du SCO qui nous a quittés pendant ses vacances de Noël. Gylaine Luçon, capitaine du club angevin lors de sa montée en Pro League il y a 2 ans, est décédée dans la nuit du 24 au 25 décembre. Évidemment, toute l'équipe de Génération Sport présente ses sincères condoléances à sa famille et à ses amis. D'ailleurs, si vous voulez découvrir un peu la vie du handballeur donc Gylaine Luçon, je vous recommande d'aller écouter la Minute des Dalleux de cette semaine disponible sur le site de Radio G. On va enchaîner avec d'autres nouvelles, d'autres actualités, avec le SCO Foot, déjà éliminé de la Coupe de France après sa piteuse élimination sur le terrain de l'INAS Montlhéry. Le SCO était censé être de retour dimanche prochain contre Saint-Étienne, mais ce ne sera finalement pas le cas. En effet, l'effectif de Gérald Baticle est décimé par les cas de Covid-19. Le technicien angevin étant lui-même positif. Le match contre les joueurs du Forez a donc été reporté à une date ultérieure. Mais l'actu du club angevin ne se résume pas qu'au Covid, puisque la CAN et le Mercato font aussi l'actualité sur les bords de Maine. 4 joueurs sont en effet concernés par la Coupe d'Afrique qui démarre ce 9 janvier. Azedine Ounahi et Sofiane Boufal représenteront le Maroc, tandis que Stéphane Bauken, et Enzo Ebos défendront les couleurs des Lions indomptables du Cameroun, qui organise d'ailleurs la compétition. Côté Mercato, 2 départs seraient envisagés vers Saint-Étienne. Tout d'abord, Sadatioub pourrait rejoindre les Verts sous forme de prêt afin de gagner en temps de jeu et alléger la masse salariale du SCO. Et un autre départ plutôt inattendu pourrait survenir également vers le Forez. C'est Paul Bernardoni, en difficulté sur ses récentes performances, qui serait en contact avec Saint-Étienne, alors que évidemment Daniel Petkovic a dans le même temps donc donné satisfaction dans les cages angevines. Affaire à suivre. Cédric, déjà un premier avis sur ces possibles rumeurs qui en tout cas prennent de l'épaisseur ces dernières heures.
Je vois pas l'intérêt en fait d'aller chercher un nouveau gardien, surtout vu son profil. Il aurait été titulaire indiscutable dans le club pour relancer Saint-Étienne, pourquoi pas. Après, il a de l'expérience quand même. Donc, est-ce que on veut faire table rase de la première partie à Saint-Etienne et repartir avec un nouveau effectif
À savoir que Étienne Green, donc le portier stéphanois, est blessé jusqu'en fin février. Donc, je crois que c'est ce qui est évoqué pour pallier son absence.
Ce serait plus du coup peut-être un joker médical.
C'est un joker médical, mais en tout cas, c'est un prêt au moins jusqu'à la fin de la saison. Ouais.
Ouais. Après, voilà, c'est encore des recrutements un peu bizarres à Saint-Etienne. Voilà. Après avoir, depuis que, comme il y aura peut-être un déclic avec le changement d'entraîneur. Donc à voir, après, pour l'autre joueur, ouais, ça paraît logique. De toute façon, il y a besoin de recruter aussi bien en attaque qu'en défense, que, enfin, de toute façon, dans tous les postes pour Saint-Etienne. Donc je dirais que oui, là, c'est un prêt qui paraît logique.
Et puis pour le SCO aussi, il se débarrasse d'un joueur qui ne jouait pas beaucoup, qui avait quelques minutes.
C'est prêt avec option d'achat ou
Pour l'instant, c'est pas encore. On sait pas encore, mais c'est plus un prêt à l'option d'achat.
Si c'est avec option d'achat, oui, ça peut être un bon coup pour le SCO pour pouvoir dégraisser et rester bien pour le fair play financier. Ouais.
Les deux, donc en plus Bernardoni et Tube, qui sont deux anciens Nîmois, pardon, et qui vont donc peut-être passer donc du SCO à Saint-Etienne tous les deux. Affaire donc à suivre. Au niveau du basket, le AB et l'UFAB vont reprendre le chemin du championnat ce week-end. L'Étoile Angers Basket se déplace à Vitré, tandis que les Angevines reçoivent Saint-Amand. Pour Cholet, il n'y a pas eu de trêve pour le club maugeois, en crise de résultats depuis plusieurs mois. Après 7 défaites de rang, les Choletais ont rebondi la semaine dernière à domicile contre Dijon 85-76. Samedi prochain, un plus grand défi les attend avec la réception de l'ASVEL. On va maintenant parler des Ducs d'Angers qui ont eu un gros rendez-vous face à Rouen. Cédric, toi tu as vu le match. Théo, toi, est-ce que tu l'as vu?
Ouais, j'étais présent au match.
Voilà, donc vous pouvez peut-être donner votre avis sur ce match. Donc les Rouen ont gagné 1-0, c'est ça?
Ouais.
Et du coup, Cédric, pour commencer.
Bah, je dirais c'est dans la continuité de ce que j'avais un peu remarqué avec déjà les deux précédentes confrontations, c'est que il y a vraiment de l'envie sur ces matchs-là. On voit de moins en moins ce côté complexe d'infériorité vis-à-vis de Rouen. Franchement, ce match-là, je crois que s'ils n'ont pas leur gardien à Rouen, ça peut passer plusieurs fois pour les Ducs très facilement. Même le but qu'on encaisse en soi, il n'est pas évident pour l'éviter. Donc non, ça a été un match, je pense, très intéressant vis-à-vis de la préparation de la Coupe de France. Limite, le seul truc que je vais reprocher, c'est peut-être Rouen qui est peut-être en période un peu à chercher. Et du coup, on les a sentis, enfin moi je les ai sentis en tout cas un peu dans le doute, notamment dans le deuxième temps, où on sentait qu'ils musclaient le jeu et enfin qu'il y a eu pas mal de fautes à ce moment-là. Et ils n'étaient pas si sereins que ça, donc... vis-à-vis des playoffs, je pense que ouais, il y a de quoi s'appuyer sur cette rencontre.
Théo, une impression?
Ouais, c'est quand même de bon augure. Alors c'est paradoxal parce que c'est quand même un match hyper frustrant dans le sens où on a l'impression de dominer mais on perd quand même. Alors que si on avait pris entre guillemets une raclée 4-0, il y aurait eu rien eu à dire. Là, c'est frustrant parce qu'on sentait que les Ducs pouvaient faire mieux, avoir ce fameux but. Mais bon, il y a rien à dire avec le gardien en face. Qui a été tout simplement monstrueux. Et puis je pense que c'est là la différence entre une très bonne équipe qui est les Ducs et une grande équipe qui est encore quand même les Dragons de Rouen à l'expérience, qui ont réussi à gérer ça. Après, je pense qu'en play-off, ça sera pas la même musique entre guillemets parce que vraiment tout est remis à zéro. Et c'est pour ça que je pense que les gars sont confiants parce que s'ils voient qu'ils sont pas si loin d'eux sur des play-offs où j'espère l'ambiance sera différente, etc., tout est possible.
Ouais, et surtout Rouen, donc qui a 5 matchs de retard par rapport à Angers, donc encore tout est possible sur ce podium dominé par Grenoble, si je dis pas de bêtises, c'est ça?
Toujours.
Et donc les Ducs qui sont deuxième et suit derrière donc Rouen. Effectivement, on suivra ça de près dans les prochaines semaines. Vous en avez l'habitude. J'ai du mal à parler aujourd'hui. C'est la reprise.
C'est vrai que sur la période qu'on n'a pas couvert, il y a eu quand même des
bons
résultats,
matchs.
Ouais, voilà, ouais. Importants. notamment bon, avec la double confrontation contre Cergy, voilà, qui était un match aussi important. Le premier match, c'était une défaite. Le match retour à Angers, ça a été un match complètement différent de la veille. Et c'était, enfin, moi, j'étais sur place, pareil, on voyait que là, il y avait une envie de revanche et de scorer. Donc là, ce qui petit bémol, c'est du coup le report du match qui avait lieu normalement, je crois, jeudi, pour Covid. Donc du coup, ça va permettre au Duc de se préparer mieux pour dimanche, pour jouer la demi-finale contre Bordeaux.
On suivra ça de près. Oui, surtout, c'est vrai que j'y pense, mais ouais, cette demi-finale qui va être quand même un gros événement pour les Ducs. Hein.
Ouais, ouais. Bah, et là, ça, en jauge réduite, du coup. Donc ça, on va perdre quasiment 10 000 personnes. Parce que je crois que c'est 20 000 la jauge.
Alors pour la finale, si on veut anticiper tout de suite la finale à Paris, mmh, ou la demi-finale.
La demi-finale, c'est 2000.
Ouais, du coup, bah, sur les 3500 possibles, on sera limité à 2000, donc on perd 1500 ouais, personnes, disons. Après, bon, je préfère 2000 qui sont à fond que ouais, 3500 qui dorment. Donc,
ouais, clairement.
Oui, puis normalement, ça devrait bouger. Enfin, en tout cas, ouais, moi, je sais que je serai sur place. Il y a aussi des choses externes au club qui sont en train de se mettre en place et normalement on devrait voir les premières couleurs ce match-là.
Ça va être à suivre évidemment. On va passer aux actualités nationales. Avant que la Ligue 1 Uber Eats ne reprenne, ce premier week-end de 2022 marquait le retour du football via les 16e de finale de la Coupe de France. Paris, Marseille, Nantes, Brest, Montpellier, Saint-Etienne, Monaco et Reims se sont notamment qualifiés pour les 8e de finale de la compétition. De leur côté, Bordeaux, Strasbourg, Rennes et Clermont sont les 4 clubs de Ligue 1 à avoir été éliminés à l'occasion de ces 16e de finale. Les deux petits poussets de cette édition sont issus du championnat de National 2 puisque Versailles et Bergerac ont respectivement sorti La Roche et Créteil. Ce soir, gros derby du Nord entre Lens et Lille avant le tirage au sort des huitièmes qui aura lieu mercredi prochain. Et puis on va dire un petit mot de handball avec la préparation pour l'Euro 2022 de l'équipe de France masculine qui est assez tronquée. Alors il y a beaucoup de Covid, il y a déjà aussi 3 forfaits. Nedim Remili était déjà forfait depuis le mois de décembre. En fin d'année, il y a eu donc également le forfait de Luka Karabatic. Et puis récemment, malheureusement, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, Elohim Prandi, hein, ce grand espoir du handball français qui a été poignardé à plusieurs reprises par des coups de couteau et qui donc est forfait. Mais heureusement, donc j'ai pas envie de dire il est en bonne santé, mais en tout cas il s'en sort. Il est éloigné de tout risque vital, donc c'est une bonne chose, mais voilà, il va se soigner pour revenir plus fort. Donc apparemment, selon les dernières informations, ce serait pour une mini querelle dans un bar justement pour fêter la Saint-Sylvestre. Bref, en tout cas, c'est vrai que cette équipe de France qui va attaquer l'Euro 2022 est assez connaît une préparation assez tronquée avec donc comme je disais beaucoup de Covid. Il y a eu un premier stage qui a été annulé, il y a des matchs amicaux qui ont été annulés, voilà, il y a pas mal de choses qui arrivent et donc on suivra ça de près. Évidemment, vous savez, le handball est important sur Génération Sport, donc on suivra ça de près. Et puis sur l'actualité, évidemment, le Dakar qui a commencé avec il y a un vrai duel entre Sébastien Loeb en tête et le Qatarien Nasser Al-Khayat, il me semble. Et donc voilà, également c'est un événement qu'on suivra aussi de près durant.
Ouais, le Dakar qui fait déjà polémique avant même de partir cette année.
Ouais, il y a eu une explosion et donc apparemment, selon les dernières informations, ce serait une revendication terroriste. Enfin voilà, on va pas rentrer non plus dans les détails.
Ouais, non, parce que l'enquête vient tout juste de commencer.
Mais... Ouais. Et à noter également que Stéphane Peterhansel, qui a déjà gagné donc 14 fois le Dakar à la fois en moto et en auto, a malheureusement connu des accidents en début de parcours et donc a dit quasiment adieu à un 15e titre. Voilà pour toute l'actualité locale et internationale. Cédric, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, un fait sportif qui t'a marqué pendant ces 15 derniers jours?
Non, on peut peut-être revenir sur ce qui va changer du coup pour les spectateurs. Donc pour les stades, c'est une jauge à 5000 personnes. Il y a certains clubs qui sont en train de réfléchir comment ils vont pouvoir mettre ça en place, parce que il y a le problème, c'est qu'il y a les abonnés d'un côté, il y a les gens qui veulent juste venir voir un match de l'autre, il y a les partenaires aussi, ils savent pas encore si les partenaires sont réellement comptés dans la jauge ou si ils sont en externe. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Pour tout ce qui est salle, c'est 2000 personnes, donc ça peut être impactant pour les économies d'un club. Et puis surtout, la chose qui, mine de rien, est importante dans la vie d'un club, c'est tout ce qui est autour, tout ce qui est snack, boisson, tout ça qui est interdit jusqu'à la fin du mois. Donc c'est vrai que ça, pour les clubs, c'est un peu un casse-tête en ce moment.
Ouais, c'est une belle galère, en tout cas, ce Covid qui revient avec le variant Omicron. Il y a pas mal de, donc, comme je disais, d'équipes qui ont été décimées en termes de cas de Covid. Voilà, il y a des jauges qui commencent à apparaître dans les stades. Donc, 5000 en extérieur et tu le disais, 2000 en intérieur. Donc, voilà, le sport, encore une fois, ouais, malheureusement, n'est
pas impacté. Des règlements qui essayent de s'adapter.
Ouais, de plus en plus.
De plus en plus. On a vu pour la Coupe de France, il y a eu des modifications par rapport au nombre de joueurs qui pouvaient être titulaires, enfin, qui pouvaient être sur la feuille de match par rapport au nombre de matchs joués habituellement. Donc, il y a eu des modifications là-dessus. Je trouve ça pas mal d'un côté. Ça permet d'éviter les nombreux reports. Et c'est vrai que par contre, pour la Ligue 1, ça a un peu de mal à vouloir reporter les matchs. Mmh. Il y a toujours cette excuse. Oui, mais il y a la Coupe du Monde. Au mois de novembre.
Ouais, ouais.
Il y a un moment,
faut dire stop.
Prendre des décisions et, tant pis si on doit jouer des matchs pendant la Coupe du Monde, j'ai envie de dire, autant préserver les joueurs maintenant et avoir une belle Coupe du Monde, quoi.
Et oui. Et puis surtout, une pensée également au sport amateur, qui va peut-être être impacté. Pour l'instant, il n'y a rien de fait, mais en tout cas, voilà. On sait que c'est quelque chose qu'on suit de près ici à Génération Sport. Donc, on verra ça. En tout cas, on leur souhaite que tous les sports amateurs et les équipes amateurs puissent continuer à pratiquer du sport. Et on va passer du coup à la première pause musicale. On va s'écouter tout de suite un titre de Nekfeu. C'est Les Étoiles Vagabondes.
J'ai envie de vivre à l'étranger, toute ma vie j'ai déménagé. J'ai vécu en banlieue, j'ai vécu dans Paris même. J'éteins mon téléphone pour pas qu'on vienne me déranger. Donc ne viens pas m'interroger, envoie tes demandes par email. J'ai l'impression qu'on m'écoute pas. Quand ça va pas, je bouffe comme un fou. Et ces derniers temps, j'ai pris beaucoup de poids. Y'a trois déprimés quand t'es pacifiste. Alors l'actualité, ça fait un bail que je l'ai pas suivi. J'ai détesté le succès, mais faut croire que ça m'a pas suffi. Et si j'étais 100% moi-même, je ferais même pas ce film. Et des erreurs, j'en ferai sûrement d'autres. Je m'en fous de l'argent, mais je veux pas que les autres s'en fassent sur mon dos. Alors je gère ma société en mode entrepreneur. Et je m'intéresse à l'espèce comme un anthropologue. C'est dur de vivre ta passion avant que ça soit solide et rentable. T'as l'impression d'avoir sali tes remparts et t'as la pression. Ouais, ma future femme marchera avec un solitaire au bras au lieu d'un solitaire au doigt. J'ai effacé les sons qui parlaient de toi. Isolé sur un perchoir, je suis redescendu par les toits. Les yeux rivés sur le vide, j'ai envie de me voir aspirer. Je savoure vite la douleur et je te remercie de m'avoir inspiré. Le seul moyen de te posséder toi, c'est de poser des toiles. Pour les pigments, j'ai mélangé tes larmes et des poussières d'étoiles. J'ai été patient, réunissant chaque cible qui se détachait quand tu pleurais, pour en faire le plus joli des pinceaux. On s'est retrouvés en plongeant dans des trous noirs, c'est troublant. Si c'est pour saigner, à quoi sert d'être ouvert? Je savais plus aimer avant que tu m'aies réappris. Je déteste le rap de blanc, j'aime le rap où tu m'aies rien après. Les pigeons me quittent d'un air insistant, indésirable. Mais qui s'inquiète de leur existence? En haut je me sens comme eux, on n'a pas besoin de leur assistance. En bas de moins en moins de résistance et les résistances. Faudrait qu'on se touche des fois, la touche est froide, repousse les faux. Vite faut une touche de fond avant qu'ils touchent tes formes. Les profs voulaient qu'on étudie, ils avaient raison. Mais on accorde peu de crédit aux vrais quand ils sortent de la bouche des faux. Ouais c'est malheureux. Mais devant la feuille, c'est moi le roi. MC, pas besoin de triche quand la remplit tes rêves. Même si on veut être riche comme l'Arabie Terreur. S'il y a une chance, je la prends. S'il y a une leçon, je la prends. J'ai pu traverser les frontières, mais pas comme un jeune afghan. Un petit arabe qui fait des bêtises, c'est un voyou pour la France. Un petit noir, c'est pareil. Mais quand c'est un petit blanc, c'est juste un chenapan. Au milieu de la tourmente, les dos se tourneront. Tu redescends tes nerfs sous pile, on met la tourmente. La terre, elle est pas toute ronde. Et les rappeurs, c'est pas des grossistes. Ils vont pécho comme tout le monde. Tu m'entends dans le son, la rue te piste. Et moi, dans le fond, je suis plutôt piste. Voire plutôt piste. Mais je la sens, cette putain de piste. Envie de t'envoler quand tu...
C'est donc Nekfeu sur Radio G avec son titre Les Étoiles Vagabondes. Voilà, c'était la petite pause musicale. On va pouvoir passer dès à présent à l'interview. Donc Pauline Frélon qui est notre invitée du jour. Bonjour, rebonjour Pauline.
Rebonjour et déjà merci de me recevoir. C'est super sympa pour commencer l'année.
C'est ça, on commence l'année comme il se doit.
Avec de l'inédit pour l'émission.
Effectivement, le kayak, on l'a rarement su ici. On a reçu beaucoup de sport, hein, mais rarement kayak. Donc on est enchanté de recevoir aujourd'hui donc, une kayakiste. Donc voilà, pour te présenter rapidement à nos auditeurs, tu as 26 ans, tu es kayakiste, tu es originaire du Mans, tu es donc désormais une Angevine, puisque tu t'entraînes à l'entente sportive Anjou, canoë et kayak. On dit les ZAC, du coup, c'est
oui,
ça?
C'est ouais. Ça.
Les ZAC. Ouais. Tu as déjà un très beau palmarès, puisque tu es triple championne d'Europe en K1, en sprint, en classique par équipe et en sprint par équipe. Puis tu as remporté la médaille de bronze au championnat du monde de descente en 2021, de nouveau en K1 par équipe. Et surtout, tu as gagné la Coupe du Monde récemment. Et donc, c'était tout ça cette année, c'est ça? Est-ce que j'ai tout bon dans
ouais,
tout ce que je viens de dire?
C'est tout bon. Je suis arrivée assez tard dans le milieu de la compétition. Du coup, première sélection, c'est ce qu'on dit cette année, c'est l'année des premières fois. Première sélection en équipe senior, première médaille internationale. Et première voilà marseillaise aussi, ça c'est le ouais. Donc, tout vraiment tout cette année, on trouvera quelques résultats aussi avant, mais cette année l'année 2021 en tout cas elle s'est bien déroulée.
Elle est marquante
pour
toi. Ouais.
Il me manque plus que le titre de championne du monde en individuel mm-hmm. à aller chercher et la boucle sera bouclée pour cette discipline.
Ça va être difficile de faire mieux en 2022 en tout cas.
Ah, on peut toujours,
c'est possible.
On peut toujours faire mieux, surtout que cette année, j'essaye de. Bah, j'avais déjà commencé l'année dernière, je m'engage aussi sur une autre discipline, donc, qui est la
course
en ligne.
Ouais, on va en parler, ouais.
Et du coup, les objectifs sont nombreux.
Ouais.
Alors, ça se comptera peut-être pas en médaille cette année,
ouais.
Mais en tout cas, il y aura.
En progression,
des,
ouais.
Voilà, il y aura des choses à aller chercher et j'ai hâte d'y retourner.
Ouais, on en reparlera un peu
ça. Va être
ça,
l'expérience de avant tout cette année.
C'est exactement ça.
On va revenir aux bases. Question toute simple. Comment tu as découvert ce monde du kayak? Alors, après, peut-être qu'on parlera des spécificités des disciplines, mais comment toi, tu as été amené au kayak?
Bah, comme beaucoup de kayakistes, par la famille. Mon père est toujours d'ailleurs le moniteur du club du Mans. Ma mère aussi faisait du kayak en loisir. Ma sœur a fait du kayak. C'est assez sectaire quand même chez nous. Hein. On fait du kayak et mon conjoint fait du kayak aussi.
Ah oui, d'accord.
Donc voilà, c'est un sport de famille que j'ai commencé hyper tôt. Avant même d'être inscrite dans un club, parce qu'il faut avoir quand même une certaine limite d'âge par rapport au savoir nager déjà. Mmh,
ouais.
Mais du coup, mes premiers souvenirs de sport, ça c'est dans un kayak.
Ouais. Ça se passe. Et justement, on en parlait avant Cédric, on s'était dit qu'il fallait expliquer un petit peu la différence entre le canoë et le kayak pour nos auditeurs qui sont pas très initiés dans la discipline. Donc justement, est-ce que tu peux dire c'est quoi la différence entre les deux?
Alors,
parce que c'est souvent associé.
Alors la différence, elle est hyper simple. En fait, ça va être surtout par rapport à la pagaie. Quand on peut pagayer des deux côtés, on est sur du kayak. Quand on peut pagayer avec une seule pale d'un seul côté, on est sur du canoë. Après, en fonction des disciplines de notre fédération, la position dans le bateau et la forme du bateau va changer. Ouais. Mais globalement, c'est à la pagaie, mais pas comme beaucoup de personnes le pensent. C'est pas au nombre de personnes dans le kayak ouais. qui ou dans le canoë qui définit l'embarcation.
C'est plus les côtés K1, K2, K3, c'est ça?
Pour faire la différence, c'est vous regardez comment les gens y pagayaient, s'ils pagayaient droite, gauche, kayak, s'ils pagayaient que d'un côté, canoë.
Oui, non, je veux dire, pour savoir si c'est collectif ou pas, il y a
oui,
les
c'est
C1,
K1,
ouais,
oui, c'est ça, C2, exactement, voilà. C'est exactement ça.
Et du coup, donc tu le disais, tu es originaire du Mans, donc c'est là où tu as découvert le kayak. Comment tu es arrivé à venir ici à Angers?
Alors, la question à un moment s'est posée parce que le club du Mans est un club pro descente de rivière. Alors, assez bizarre, il y a pas de grosse rivière là-bas, mais par contre, pas une culture de la course en ligne, la discipline olympique que je voulais commencer. Mmh. Et du coup, mon conjoint a été muté. Il y avait le choix entre Nantes et Angers, en gros. Et il y a une très grosse culture quand même sur le bassin angevin, avec des clubs comme Angers et Couflans et Bushmen, voilà, qui sont, on va dire, des professionnels de la course en ligne. Et du coup, bah voilà, c'est l'entente Esac, moi, qui me plaisait. Et fallait aller chercher le savoir-faire. Mmh. Et c'est pour ça qu'on s'est rabattu sur Angers.
Et du coup, ouais. Justement, c'était ma prochaine question. Pourquoi les AC en particulier, alors que du coup, tu avais d'autres clubs? C'est un choix de ta part. Tu connaissais peut-être du monde à l'intérieur?
Ouais, déjà je connaissais cette entente qui est assez particulière. Dans les autres clubs de la fédération, il y en a pas, je sais même pas si il y en a, ou alors il y en a très peu, où on mutualise les clubs, les moyens pour créer des équipages. Surtout chez les féminines, en fait, c'est hyper compliqué d'avoir, par exemple, pour faire un K4, 4 kayak dames seniors. Mmh. Le fait de regrouper les clubs, bah, y a peut-être plus de probabilité, en fait, d'avoir ces 4 filles. Donc déjà, pour le sport féminin, cette entente, elle est super. Et puis, bah oui, je connaissais du monde. Je savais qu'il y avait du savoir-faire avec des compétences non négligeables. Et aussi des amis qui étaient déjà en place. Quoi.
Et du coup, l'entraînement, il est où là? C'est plus le lac de Maine.
Alors là,
c'est
moi,
où?
Pour la nouvelle année, en fait, il faut qu'on soit quand même rattaché à un club. Moi, je serai rattaché cette année quand j'aurai officiellement pris ma licence, parce que j'ai toujours pas fait mon petit papier.
Ah, oui.
Mais voilà, je serai sur le club d'Angers principalement, donc lac de Maine. Après, moi, j'aime beaucoup. Traverser le lac de Maine, débarquer et puis rembarquer sur la Maine.
Okay.
Donc, j'aime beaucoup les kilomètres, donc on peut me retrouver à Écouflant, peut me retrouver à Bushmen. Le terrain de jeu, il est quand même assez vague, mais principalement, oui, sur le Haut-Pavois au lac de Maine.
Et du coup, combien vous êtes dans le club à peu près? Quel niveau de structure? Il y a combien de licenciés?
Alors,
environ.
Exactement ça, je préfère pas m'avancer je sais pas exactement le fait que c'est aussi les AC, en fait, c'est que les compétiteurs. Donc en fait, toutes les personnes qui sont dans le club d'Angers, qui sont aussi en loisir, je sais pas exactement les nombres de personnes.
Il y a deux branches bien distinctes.
Bah, en fait, les AC, c'est ceux qui veulent faire de la compétition à partir du moment où ils arrivent cadets. Quand ils sont encore jeunes, ils sont chacun dans leur structure. Bah, ils sont rattachés vraiment au club, par exemple au club d'Angers et au club des Couflans. Et arrivé cadet, là, s'ils veulent faire de la compétition, ça devient sous les couleurs de l'ESAC. Et après, nous, on a quand même un bon groupe. On a quand même pas mal de seniors, plusieurs en Pôle France. Mm-hmm. Pas mal de jeunes aussi, juniors qui marchent bien. Et au championnat de France, on était beaucoup avec les parents. Ouais, on était pratiquement une vingtaine. Ouais. Donc c'est quand même un bon club. Le nombre exact, je l'ai pas en tête, ça bouge.
Un club prestigieux en tout cas en France.
Bah, avec un bon niveau, oui. Quand même.
Et du coup, quel est ton coach ici à Angers? Est-ce que t'en as un?
Alors, moi, c'est un peu là, mon coach qui s'occupe principalement de moi, c'est plus sous forme de bénévolat, c'est Florian Revelon.
Okay.
Après, je suis rattachée au Pôle France de Toulouse. Là, c'est un peu le micmac où il faut, voilà, fallait être attaché à un pôle France. Le seul pôle France qui fait descente et course en ligne, c'était Toulouse. Donc, j'ai les entraîneurs nationaux, voilà, qui peuvent me suivre au besoin. Et après, bah, y a aussi Benoît Bayeux, qui est l'entraîneur de d'Angers, qui s'occupe de moi. Mais principalement, c'est Florian Revelon qui me gère.
Et du coup, ton intégration au club, elle s'est plutôt bien passée?
Ouais, ça s'est vraiment bien passé. Bah, mon conjoint, hein, il y a quelques années, avait fait de la course en ligne, donc lui, c'était rattaché à Bushman. Donc en fait, on connaissait quand même pas mal de monde. Je suis arrivée en même temps que Vanina. Donc ouais. En fait, il y a deux petits bouts qui sont arrivés en même temps avec les mêmes objectifs. Donc une super démarche pour s'entraîner, c'est vraiment sympa, ouais.
On le disait, tu as eu une année couronnée de succès. Tout au long de cette année, donc 2021, quelle est la course qui a été, selon toi, la plus marquante à titre personnel?
Je dirais que c'est la course longue de la Coupe du Monde à Trégnac que j'ai gagnée.
Okay.
Parce que je suis sprinteuse. Donc oui. Ça a été vraiment quelque chose où je me... On m'aurait dit ça il y a quelques années, j'aurais dit c'est pas possible. Autant le sprint, oui, c'était possible. Autant là, on m'aurait dit ça en début d'année, j'aurais fait. Elles ont toutes nagé, c'est un problème. Mais et du coup, oui. Donc ça, c'est vraiment la course. En plus, quand c'est à domicile, c'est pas pareil quand on monte sur le podium et qu'on a déjà toute la famille qui est à côté, qui hurle, voilà. Donc. Donc ouais, c'est vraiment la course de cette année. Après, bien entendu, le titre de championne d'Europe en sprint, en individuel, c'est voilà, la première médaille, la première marseillaise. Ouais. Donc, ouais,
pour toi toute seule.
Oui, c'est ça. Pour moi toute seule. Mais ouais. Vraiment, la classique, la course classique de Trégnac de cette année, c'était vraiment le moment où on a un petit peu la gorge qui se serre. Et c'est pour moi, ça.
C'est ça. Du coup, la Coupe du Monde, donc tu as gagné la Coupe du Monde. Raconte-nous déjà un peu c'est quoi le principe et puis surtout, quand est-ce que tu as su que tu allais être championne du monde?
Alors c'est la différence en fait. Nous, le championnat du monde, c'est une course voilà qui décerne le titre de championne du monde. Et par contre, la Coupe du Monde, là c'est la moyenne des résultats. Cette année, on avait six courses, donc trois qui étaient en Bosnie et à Banja Luka et trois qui étaient en France. Et du coup, sur les premières Coupes du Monde à Banja Luka, il y avait eu un sprint qui s'était vraiment pas très bien passé. Du coup, j'étais sorti de la ligne juste avant. J'en regagnais un autre. Et à la course longue, je me faisais un peu massacrer, on va le dire.
Okay.
Et par contre, on est arrivé sur les trois dernières courses en France où je gagne la course longue, je fais deux à la deuxième. Et en fait, déjà à celle-ci, en fait, je savais que j'avais gagné à la moyenne des courses.
Okay.
Et après, il y a eu la mass start où c'est un départ un peu comme regarde. Voilà, exactement. Quand on les regarde partir ou ils partent tous en même temps, nous, c'est un peu. On part tous en même temps et puis tu passes où tu peux et puis celle qui est derrière, elle n'a pas trop le choix.
Ouais.
Et du coup, là, j'ai fini troisième, mais c'était déjà plié au niveau des résultats.
Cédric, est-ce que tu as une question sur la pratique notamment avant qu'on parle de la Talangevine?
Revenir plus sur un peu ton parcours sportif, tu as été quand même sportif polyvalent, parce que j'ai pu comprendre que notamment quand tu as été faire 6 mois aux États-Unis donc pour te former, tu as touché aussi à d'autres disciplines en même temps, et justement, qu'est-ce que ça t'a apporté?
En fait, le voyage, moi j'ai toujours été par rapport à une très grande sportive, une petite boule de nerfs, donc j'ai fait pas mal de sport avant. en plus ou en même temps que du non même en même temps que le kayak, ça va de la danse jusqu'à du rugby.
Oui, c'était varié de ce que j'avais vu.
Ouais, puis j'avais fait STAPS aussi comme étude, donc autant vous dire qu'on touche vraiment à tout comme sport. Bon, autant vous dire que le foot c'était pas non plus ma tasse de thé, mais par contre là, le voyage aux États-Unis c'était vraiment pour se spécialiser dans de la course en ligne. Dans cette nouvelle discipline où j'ai pas fait une seule fois de la descente de rivière pendant ces 6 mois là, et j'étais coachée par Philippe Bocara qui a fait 6 fois les Jeux Olympiques, qui voilà est un peu pour moi c'est mon mentor, mais c'est quelqu'un de référence dans notre pays, et là c'était vraiment pour apprendre cette discipline qui est pas la même chose, on payait pas de la même façon. Il y a quand même Il y a des similitudes, mais il y a aussi beaucoup de différences, et c'est ces différences-là qu'il fallait que j'apprenne.
Ah, du coup, tu avais une grosse remise en...
Ouais, fallait en fait... c'est assez drôle, parce que c'est encore aujourd'hui, c'est de se dire qu'il faut que je fasse des exercices que des cadettes, en fait, travaillent sur le côté technique. Voilà, c'est encore de l'apprentissage. Alors, de l'apprentissage, bien sûr, ça fait quand même des assez bons résultats. Mais il y a encore, quand on change de discipline, il faut vraiment rapprendre les bases. Quoi.
Ouais, mais souvent, quelle que soit la discipline, le fait d'acquérir des bonnes bases solides, après, ça permet de,
c'est ça.
De rêver. Quoi.
On va passer à une petite pause musicale, puis après, on reprendra l'interview par la suite. On va s'écouter tout de suite deux rappeurs angevins. On va s'écouter donc Odor et Aztec sur le titre « Fin du film ».
C'est pour combler mes peines dans les fonds. Cicatrices, je les compte plus, pas la peine que je les colle mal. Donc je resserre un cognac pour calmer mes pensées. Ouais, l'effet d'un pansement qui fait plus de mal qu'autre chose. Donc je resserre une dose de plus. Au point où j'en suis, je me bute. Plus rien à perdre, je les fuck. Plus rien à arrêter, c'est fini. Autre chose à faire que du chialer.
Même si l'ambiance elle est sinistre,
le futur ça inquiète.
Surtout quand le passé il s'immisce.
On se renvoie la balle comme au tennis. Et quand t'es tout seul sur le terrain, c'est chaud.
Avec le temps t'apprends à faire la part des choses.
Non, c'est pas la fin du film, mon frère. Je suis toujours dans les préparatifs. Ça me le fait. Non, c'est pas la fin du film, mon frère. J'suis toujours dans les préparatifs et ça me le fait.
J'ai pas lu le scénario. J'attends que ma scène arrive. J'pensais finir sur un yacht. J'suis solo, elle rate des rives. J'ai pas lu le scénario. J'attends que ma scène arrive. Ouais.
J'ai fait confiance à la vie, à ma boursier. J'suis ce rappeur triste de la côte ouest. Sur ce morceau là, je mon procès, je me sens trop obscène, je fais que de bander sur mes obsèques. On a fait le tour de la ville avec Aztec. On s'est bu 4 pintes, puis on est rentré à 4 battes. Si tu savais dans ma vie c'est la cata, je me supporte plus devant le miroir, je fais la castagne. Je pense à mes failles, y'en a tellement, je peux pas toutes les énumérer. Les gens disent que je suis un sacré numéro, mais ils savent pas comment ça se passe. J'essaie de m'évader de mon crâne comme d'Alcatraz. Mais ça marche hap comme ça, cœur en miettes comme fond du pochetard. Mon pire ennemi c'est le portable. Quand je pense à toi qu'il est grave tard, ma tête est story, me fait l'effet d'un gauche droite.
Où est-ce qu'on va, mais qu'est-ce qu'on vit? Je peux pas me plaindre, y'a des gens pour qui c'est pire. Mais plus le temps passe, plus ma jalousie s'étire. Avant je comprenais tout, mais j'avais rien vécu. Maintenant je me sens trop con, ma gueule. Faut que je remonte la pente tout seul. Dire qu'au départ on devait faire toute notre vie à deux.
Non, c'est pas la fin du film, mon frère. Je suis toujours dans les préparatifs et ça me le fait. Non, c'est pas la fin du film, mon frère. Je suis toujours dans les préparatifs et ça me le fait.
Scénario, j'attends que ma scène arrive. J'pensais finir sur un yacht, j'suis solo, elle rate au dérive. J'ai pas lu le scénario, j'attends que ma scène arrive. Ouais.
Non, c'est pas la fin du film, mon frère.
J'ai pas lu le scénario, j'attends que ma scène arrive.
Non, c'est pas la fin, non, c'est pas la fin.
J'pensais finir sur un yacht, j'suis solo, elle rate au dérive.
Odeur Aztec, donc deux rappeurs angevins qui posaient ensemble sur le son à la fin du film. On est de retour pour la suite et fin de Génération Sport, toujours sur Radio G. Vous nous écoutez depuis le 101.5 FM ou sur www.radio-g.fr. Et on est de retour donc avec Pauline Frélon pour parler notamment aussi avec Théo. Donc Théo, on va parler de la dalle angevine tout de suite. Donc si la dalle angevine, Pauline, t'accompagne, c'est en partie pour t'aider à réaliser ton projet qui s'oriente vers les prochains Jeux Olympiques de Paris et Los Angeles, c'est bien ça?
Oui, c'était ça. C'était vraiment un projet, audacieux de changer de discipline et de changer de discipline pour performer en fait. Mmh.
Donc oui, ça, tu vas donc entamer une sorte de reconversion, on peut le dire, pour passer donc de la descente à la course en ligne. Concrètement, c'est quoi la différence entre les deux, si tu pouvais décrire l'un et l'autre?
En fait, la différence, c'est un peu l'endroit. En descente de rivière, on est sur des formats qui sont pas standardisés. Comme on peut avoir un 100 mètres en athlétisme, nous c'est vraiment la topologie de la rivière qui va faire que notre sprint peut durer 40 secondes comme il peut durer 1 minute 20, la course longue peut durer 8 minutes jusqu'à une vingtaine de minutes. Donc on est vraiment sur quelque chose où on est adaptable, on passe où l'on veut. C'est un départ toutes les 30 secondes, donc on est tout seul face à la rivière un petit peu. Alors que la course en ligne, même si on a la même pagaie, on a le même mode de propulsion, là on est sur de la confrontation directe. Vraiment, okay. Voilà, comme en natation, il y a un ready, set, go, les sabots ils descendent et puis on s'élance dans l'arène avec des concurrentes sur les côtés.
Okay.
Donc là, ça sera sur les épreuves de 500 mètres. Donc là, c'est vraiment balisé. Autant d'un côté, c'est vraiment de l'adaptabilité. Autant de l'autre, sur la course en ligne, c'est un peu plus métronome, un peu plus que voilà. Faut vraiment savoir. Je pense que même les meilleurs dans cette discipline peuvent dire combien de coups de pagaie ils vont mettre sur 500 mètres. Donc c'est à la fois complémentaire. Mais il y a des choses, à apprendre. La posture, la technique, et aussi rien que le fait d'avoir des gens à côté qui avancent en même temps que toi, qui peuvent passer un peu devant. En fait, faut aussi apprendre à gérer ça, quoi.
Mmh. Donc justement, t'arrives à faire. Le fait que. T'as eu une ou deux personnes de chaque côté.
Ça a été la chose la plus difficile et c'est aussi ce que je travaille en plus cette année pour avoir une vision un peu plus centrée. Moi j'ai de la descente de rivière où on doit savoir où sont tous les cailloux, les arbres, pour bien se repérer. Je vois très très bien sur les côtés. Et du coup, j'ai un peu du mal à rester focus. Donc ça, c'est quelque chose, ça s'apprend.
Et du coup, ça demande plus d'énergie, je suppose.
Au
moins, peut-être sur le départ pour...
Le départ me pose aucun souci. En tout cas, ça me gêne pas sur le départ, parce que je pense que je suis une très bonne starteuse. Mais autant quand on arrive sur la fin de course que c'est normal, aujourd'hui il y a des gens qui sont meilleurs que moi qui commencent à passer devant et arriver à gérer ça, se servir en fait de l'autre plutôt que d'être pénalisé par ce que fait l'autre, et ça faut que je continue encore à l'apprendre, quoi.
Parce qu'on a vu pendant les JO sur certaines compétitions ça jouait vraiment à presque un doigt, j'ai envie de dire. Enfin, c'était
un bout de kayak, quoi.
Un bout de kayak, ouais. Et encore, c'est
même
qu'on a les technologies pour mesurer, parce que à l'œil nu, c'était des égalités, quoi.
Ah, le pire, c'est en athlétisme, c'est les écarts sont tellement proches, et c'est vrai qu'en fait, dans tous les sports de confrontation directe comme ça, la moindre chose qui peut te perturber. En fait, peut te faire perdre ta course. C'est tellement, des fois, à rien que ça se joue. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment arriver à faire son truc. Soit se servir de ce que font les autres, mais pas, en tout cas, être pénalisé par ça, quoi.
Je vais me tourner vers Théo. Donc, Pauline est lauréate Performance 2021 de la Dallangevine. Alors déjà, explique-nous un peu en quoi ça consiste et qu'est-ce que vous lui apportez au quotidien.
Alors, le fait d'être lauréat, donc c'est un projet que nous, le jury de l'association La Dallangevine, donc qui est composé de mécènes, de sportifs de haut niveau et de membres de l'association, c'est-à-dire que son projet a été sélectionné.
Ok.
Depuis, à partir de septembre, cette sélection, ça a été officialisé, disons. Et puis, l'idée, c'est un accompagnement financier. Alors aujourd'hui, c'est modeste, qui est de 1000 euros. Mais en fait, ça va bien au-delà de ça. Enfin, on essaye de voir ça au-delà d'un simple accompagnement financier. C'est un accompagnement du coup médiatique, mise en lumière de son profil, de sa discipline, sur nos réseaux, etc. Pour montrer aux Angevins un petit peu que à Angers, regardez, on a une championne d'Europe parmi nous quand même. Un accompagnement aussi humain, c'est-à-dire la mettre en relation avec des personnes qui pourraient y avoir dans notre réseau, qu'on pourrait juger utiles pour son projet sportif, pour développer telle ou telle capacité. Et puis voilà aussi la faire rentrer dans une famille entre guillemets, parce qu'elle est lauréate 2021, mais ça va, c'est entre guillemets pour toute la vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a à cœur de fédérer les sportifs de haut niveau à Angers, enfin tous les acteurs du mouvement sportif à Angers, et que peut-être demain, elle rencontre d'autres lauréats qui pourra échanger avec eux, ouvrir des portes plus facilement, etc.
Comme on voit avec Claire Supiot, qu'on voit beaucoup aujourd'hui dans les médias, même dans la dalle angevine, qu'on voit un peu partout depuis qu'elle est lauréate.
Ouais, Claire a été la première, en fait, la première édition en 2017, et puis on est super fiers de voir aujourd'hui son évolution, son parcours, grâce à tout ce qu'elle met au quotidien pour réussir. On a essayé peut-être d'être un peu un tremplin, une sorte de poussée un peu supplémentaire pour elle, quoi. On essaie vraiment d'être ce supplément d'âme pour les athlètes sur le territoire angevin, pour qu'ils réussissent au mieux, de les mettre dans le meilleur des conforts possibles. Et puis je pense qu'aujourd'hui ça peut inspirer en effet les nouveaux lauréats.
On reparlera un peu plus tard des actualités de la dalle. Je me retourne vers vers Pauline. Donc ton objectif, toi, c'est les JO. Parce que la descente n'est pas aux JO, c'est ça? Et est-ce que tu peux expliquer pourquoi la descente n'est pas aux JO? Et surtout, quel est ton point de vue par rapport à cela? Est-ce que tu aurais aimé justement que la descente soit aux JO, étant donné que on peut le dire, t'es une des meilleures du monde, quoi?
Oui, bien sûr, c'est quelque chose que je pense on aimerait tous, en tout cas dans toutes mes copines que je connais qui fait du haut niveau. Après, il n'y a pas de la place pour malheureusement pour tous les sports, aux Jeux Olympiques. Mm-hmm. Dans chaque sport, il y a des disciplines qui ne sont pas olympiques. On a déjà une discipline qui est le slalom qui se passe en eau vive comme nous. C'est sûr que je vais prêcher un peu ma paroisse, hein. C'est le plus beau sport du monde, la descente de rivière, mais médiatiquement c'est aussi dur de le suivre, parce que des fois les rivières, elles sont tellement longues, comment on peut suivre médiatiquement avec une caméra? Il y a plein de choses comme ça qu'il faut penser, parce que c'est ça aussi les Jeux Olympiques, faut qu'on puisse le suivre. Et c'est sur certains parcours, j'imagine que ça peut être très compliqué. Après, le fait de pas être dans une discipline olympique, on est assez, en tout cas, j'ai jamais entendu de dopage.
Ouais.
Il y a aussi des choses positives sur le fait que la descente, elle est pas olympique. Mais c'est après, j'aime bien la course en ligne, donc ça fait un autre objectif d'aller au jeu dans une autre discipline.
Il y a dans le club angevin, je crois qu'il y a également donc Vanina Paoletti, c'est pour ça que j'ai fait la petite bourde. Elle a participé aux Jeux de Tokyo. Quelle est ta relation avec elle? Tu la côtoies au quotidien ou pas du tout?
Ouais. Puis c'est pour ça que ça va faire rigoler, c'est qu'on nous confond plutôt.
Donc c'est bon, on est bon.
Oui, non, c'est bon, hein, vous devez être.
Je suis pas le premier.
non, mais surtout qu'en plus, on va être coéquipières pour parce qu'on a des compétitions club, donc on sera en K2 toutes les deux. Donc vous nous mettez des lunettes coiffées pareil. vous pouvez vous tromper, il n'y a pas de souci.
C'est une bonne solution ça pour les contrôles anti-dopage. dopage.
Ouais, non, là quand même, on se ressemble pas de près. On voit la différence, mais oui, on est. Bah moi, en tout cas, c'est vraiment une très très bonne copine. Mm-hmm. Du coup, moi, des fois, j'arrive à aller sur Vers-sur-Marne. Elle vient ici, donc on s'entraîne ensemble. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'elle est plus jeune. Mais ça fait plus longtemps qu'elle fait de la course en ligne, donc elle m'a porté sur ça, et puis moi un peu plus vieille, donc avec voilà aussi d'autres choses à lui apporter. C'est aussi une ancienne descendeuse, donc en fait on a quand même pas mal de points communs, et le fait d'avoir une très très bonne copine sur l'eau, ouais, ça fait du bien de monter ensemble, ouais, quoi.
C'est une force pour toi d'avoir quelqu'un en plus qui a déjà joué, enfin qui a déjà fait les JO, pour te parler, pour t'aider, et qui fait de la course en ligne depuis longtemps, quoi.
Ouais, et c'est surtout aussi d'avoir avant l'athlète, c'est aussi super bien d'avoir une copine. Mmh. Quelqu'un qui est très, ouais, voilà, qui compte pour moi, qui a le même projet, donc ouais, les doutes, les peurs, les voilà, les incertitudes, c'est des choses qu'on peut partager, où il y a pas cette rivalité. On est concurrente le jour de la course, mais à côté de ça, en fait, on travaille très bien ensemble quand on est toutes les deux, donc ça c'est super.
Et puis c'est un plus du coup pour le groupe France, quoi.
Ben moi je suis pas dans le groupe France course en ligne encore, mais ben, j'espère que ça va arriver. Mais oui, je pense que c'est un plus, ça peut être un plus d'avoir deux filles qui viennent du même club, qui se connaissent quand même plutôt pas mal.
Je me retourne encore une fois vers Théo pour parler un peu de la dalle, de ce qui va se passer en 2022. Il y a donc plusieurs choses qui sont prévues. Je crois qu'il y a notamment un t-shirt qui est sorti il y a pas longtemps.
Ouais, en effet, depuis les fêtes de fin d'année, là, le t-shirt de la dalle Angevine, donc en matière éco-responsable, et un t-shirt technique est disponible. Ça y est, il est de retour. Donc pour faire de la course à pied, du vélo ou du skateboard, ce que vous voulez, et sous les couleurs de la dalle Angevine, et bah c'est possible. C'est disponible sur notre site internet en partenariat avec Skills, équipementier du sport angevin. Donc allez-y, foncez acquérir le t-shirt, et bien évidemment bah tous les bénéfices servent à financer l'association et les projets sportifs comme Pauline notamment. Et puis voilà le t-shirt, et enfin on va lancer également dans les prochains jours une grande campagne de mécénat grand public pour en fait inciter les gens, les dalleux du sport angevin, tous ceux qui sont amoureux d'Angers et du sport, bah rejoindre un petit peu notre communauté. Et puis à assister à des moments un peu entre guillemets privilégiés avec des lauréats de l'association, voilà, assister à des événements sportifs aussi du sport angevin, voilà, se retrouver en fait pour parler de sport et d'Angers.
Et au niveau des autres lauréats, comment ça va se passer en 2022? Il y a déjà des échéances qui sont prévues?
Et oui, 2022 du coup pour nos autres lauréats, alors les lauréats sociétaux que sont le SCO Escrime et le SCO Volley, alors dont leur projet sociétal doit commencer là à partir de janvier 2022. On croise les doigts pour que ça soit maintenu. C'est encore en discussion pour leur séance de softball et de cours d'escrime du coup avec l'Institut de cancérologie, parce que donc, du fait du contexte sanitaire, il y a moyen que ça soit repoussé parce que les premières séances devaient arriver malheureusement, mais bon, on sera toujours là évidemment. Et enfin pour les lauréats Aventure, l'association Outventure, ça pareil, ça a été révélé juste avant les fêtes de fin d'année, il y a le Naturist Bike 2022 qui revient, donc cet événement gravel unique en Europe les 24, 25 et 26 juin 2022, où on sait que du coup nos lauréats sont égérie entre guillemets de l'événement, et bien évidemment participeront au Gravel of Legends, 300 km entre la Normandie et Angers en gravel, à faire le plus vite possible.
C'est ça, on en reparlera évidemment ici à Génération Sport. Déjà bah, la dalle Angevine revient dès le mois prochain, je crois que c'est Amandine Brossier qui viendra, donc voilà, encore quelqu'un qui a participé aux Jeux Olympiques, donc ce sera intéressant de voir ça. Pauline Frélon, merci.
On prend en plus pas loin des JO d'hiver.
Oui, effectivement.
Ils vont peut-être commencer d'ailleurs.
Ouais, peut-être.
C'est début février, c'est ça doit être, ouais, le 2, je crois que ça commence.
Dans un mois.
S'ils sont maintenus.
Évidemment. Pauline Frélon, merci d'avoir été avec nous donc dans Génération Sport. C'était un honneur d'être avec nous. C'était un très bon moment passé ici à la radio. Donc, bah, vous revenez quand vous voulez ici.
Merci beaucoup.
On va tout de suite passer au générique et puis nous on va se dire à mardi prochain donc pour une nouvelle émission.
Même déjà dire que il y aura sûrement un live Facebook dimanche avant même 16h depuis la patinoire. On va essayer de couvrir un peu cette finale, donc au moins avec les résultats en temps réel. En espérant que la connexion puisse suivre, ouais. Mais là, je pense jusqu'à dimanche, on va être en mode duc. Et puis, s'il y a qualification derrière, ça va être le grand rush jusqu'au 30. Quoi.
Très bien, on retrouvera ça, donc, ça dimanche.
Dimanche, ouais.
Et nous, pour la radio, on se retrouve mardi prochain, même heure, même endroit. Et je vous souhaite un bon mardi sur les ondes de Radio G.